Chapitre 8. Conversation nocturne. Dans l'entrée de la maison, les genoux de Ronica fléchirent et elle s'effondra. Kyle demeura sans réaction, se contentant de secouer la tête, et ce fut Kefria qui se chargea de mettre sa mère au lit. La chambre que Ronica avait si longtemps partagée avec son époux sentait la maladie et la mort, et plutôt que d'étendre sa mère sur le lit pliant où elle avait passé tant de nuits de veille, la jeune femme ordonna à Rack de lui préparer une chambre d'amis. Puis elle resta assise à côté de sa mère en attendant que la servante installe sa maîtresse, totalement inexpressive, dans le lit. Ensuite, elle alla voir Seldon qui pleurait. Il avait demandé sa mère, et Malta lui avait répondu qu'elle avait trop à faire pour s'embarrasser d'un bébé pleurnichard, sur quoi elle l'avait laissé assis au bord de son lit sans même appeler un domestique pour s'occuper de lui. L'espace d'un instant, Kefria en voulut à sa fille, avant de se rappeler que Malta n'était elle-même guère plus qu'une enfant. On ne pouvait pas attendre d'une gamine de 12 ans qu'elle prenne en charge son frère de 7 ans après la journée qu'il venait de vivre. Elle calma donc le petit garçon, l'aida à enfiler sa chemise de nuit et resta près de lui jusqu'à ce que ses yeux se ferment peu à peu. Quand elle le quitta enfin pour regagner son propre lit, elle songea que toute la maisonnée devait déjà dormir. Tandis qu'elle suivait les couloirs familiers, la lueur dansante de la bougie la conduisit à penser aux fantômes et aux esprits, et elle se prit soudain à se demander si l'Anma de son père n'occupait pas encore la chambre où il avait souffert si longtemps. Un frisson lui parcourut le dos, et elle sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Puis elle se réprimanda. L'Anma de son père ne faisait plus qu'un avec le navire désormais. Et même si son esprit hantait encore la maison, son père ne lui voudrait sûrement pas de mal. Ce fut néanmoins avec soulagement qu'elle se glissa dans la chambre où Kyle dormait déjà. Elle souffla la bougie pour ne pas le déranger et se déshabilla dans le noir en laissant tomber ses vêtements en tas sur le plancher. Elle trouva la chemise de nuit que Nana lui avait préparée et l'enfila en s'imprégnant de sa fraîcheur. Et enfin, enfin, au lit. Elle souleva la couverture et le drap et s'allongea doucement à côté de son époux. Il ouvrit les bras pour l'accueillir. Il l'avait attendue sans s'endormir, et malgré la longue journée qu'elle venait de connaître, malgré sa fatigue et son chagrin, elle s'en réjouit. Elle eut l'impression qu'au contact de Kyle, des nœuds de douleur qui l'étranglaient depuis des jours se défaisaient. Un moment, il la tint serrée contre lui, lui caressa les cheveux et la nuque jusqu'à ce qu'elle se détende. Puis il lui fit l'amour, simplement et avec douceur, sans un mot, dans le clair de lune d'été qui tombait des hautes fenêtres. Sa clarté était presque assez forte pour donner des couleurs à tout ce qu'elle touchait, aux draps crème du lit, aux cheveux de Kyle qui semblaient d'ivoire, à sa peau dont les deux tons d'or terne indiquaient les endroits exposés au soleil et ceux qui ne l'étaient pas. Ensuite, son corps épousant celui de son mari, elle posa la tête sur son épaule, et tout ne fut que silence pendant quelque temps. Kefria écouta les battements du cœur de Kyle, sentit l'air qui gonflait sa poitrine, et elle en fut heureuse. Tout à coup, elle se jugea égoïste et indélicate de posséder tant et de pouvoir en profiter la nuit même du jour où sa propre mère avait perdu son époux, et avec lui toute intimité physique et toute forme de partage sur ce plan. Encore détendue et tiède d'avoir fait l'amour, elle ressentit la disparition du mari de sa mère comme le sort le plus terrible qui pût exister. Elle ne s'écarta pas de Kyle, mais sa gorge se serra douloureusement et une larme roula sur sa joue pour tomber sur l'épaule de son époux. Il y porta la main, puis caressa le visage de sa femme. « Non, » fit-il avec douceur, « arrête. Il y a eu assez de pleurs et de tristesse aujourd'hui. Oublie tout pour l'instant. Que rien ni personne ne vienne s'interposer entre nous deux. » Elle reprit son souffle. « Je vais essayer. Mais ce qui arrive à ma mère... Je viens seulement de me rendre compte de ce qu'elle a perdu. Tout ça. » Et de sa main libre, elle parcourut le corps de Kyle de l'épaule à la cuisse. Il la saisit et l'amena à ses lèvres pour y déposer un baiser. Je sais. J'y pensais moi aussi en te touchant. Je me suis demandé si un jour je ne revenais pas, ce que tu ferais.
Ne dis jamais ça,
s'exclama-t-elle d'un ton suppliant. De la main, elle obligea doucement Kyle à tourner son visage vers elle dans le clair de lune.
Je ne suis toujours pas certaine que nous ayons bien fait,
déclara-t-elle soudain d'une voix altérée.
Nous en avons discuté, je sais. Nous avons tous convenu que c'était le mieux, que chacun se trouverait ainsi à l'abri. Mais l'expression qu'elle a eue quand j'ai pris la cheville et ensuite son départ précipité, je n'aurais jamais cru ça d'Althea. Quitter les funérailles de cette façon, je pensais qu'elle aimait davantage papa.
Fit Kyle d'un ton pensif. Je ne m'y attendais pas non plus. Pour ma part, je pensais qu'elle aimait le navire, sinon son père, davantage que ça. Et je prévoyais que nous aurions à nous battre avec elle. Mais j'ai été bien soulagé qu'elle cède si facilement. J'étais sûr qu'elle nous ferait des scènes tout au long des funérailles. Au moins, elle nous aura épargné ce spectacle. Mais je suis inquiet, je l'avoue, de l'endroit où elle se trouve en ce moment. Une jeune fille doit être chez elle la nuit de la mort de son père, et non courir les rues d'une cité comme Terrilleville. Il se tut, puis reprit avec une sorte de circonspection. Je ne peux pas la laisser s'en tirer ainsi, tu le sais. Il faut la réprimander. Quelqu'un doit la reprendre en main avant qu'elle gâche complètement sa vie. Papa disait toujours qu'Althea se comportait mieux si on lui laissait un peu la bride sur le cou, répondit Kefria. Qu'il fallait lui permettre de commettre ses propres erreurs, car apparemment elle n'apprenait qu'ainsi. Kyle émit un grognement dédaigneux. Pardonne-moi, mon amour, mais je pense que ton père se justifiait de cette façon de ne pas adopter une véritable attitude paternelle avec elle. Elle est gâtée. Depuis que je la connais, on lui passe tout, et ça se voit. Elle croit toujours pouvoir agir comme ça lui chante, et ça la rend égoïste, sans égard pour les autres. Mais il n'est pas trop tard. Découvrir son caractère m'a causé un choc plus grand que tu ne peux l'imaginer. Au voyage de retour, quand je suis sorti de mes gonds et que je l'ai cantonné dans sa cabine pour le reste du trajet, je ne pensais pas qu'elle m'obéirait. J'étais en colère et je l'ai congédié avant de perdre complètement mon sang-froid. Mais elle s'est pliée à ma volonté. Et à mon avis, tout ce temps d'isolement lui a donné l'occasion de réfléchir. Tu as vu son attitude quand nous sommes arrivés? Repentante, elle n'a pas dit un mot. Et lorsque nous avons débarqué, elle était vêtue comme une dame, du moins autant qu'elle en est capable. Il s'interrompit un moment, secoua la tête en emmêlant ses cheveux blonds sur l'oreiller. J'étais stupéfait. Je m'attendais à ce qu'elle relance la dispute à tout instant. Et puis j'ai compris. C'était ce qu'elle espérait depuis toujours. Quelqu'un qui pose les limites, qui la prenne en main et l'oblige à se conduire comme il faut. Jusque-là, à mon avis, elle essayait seulement de voir jusqu'où elle pouvait aller avant que quelqu'un abatte ses voiles et jette l'ancre. Il s'éclaircit la gorge. Je respectais ton père, tu le sais. Mais quand il s'agissait d'Althea, il était aveugle. Il ne lui interdisait jamais rien, ne lui disait jamais non. Quand je suis arrivé et que je me suis opposé à elle, le résultat a été spectaculaire. Naturellement, quand elle a débarqué au port et que ma responsabilité envers elle a pris fin, elle a recommencé un peu à jouer au cheval échappé. Il haussa les épaules. Pendant quelque temps, le silence régna dans la chambre, tandis que les deux époux songeaient à Althea et à ses étranges comportements. Kyle prit une profonde inspiration et soupira longuement. Jusqu'ici, je pensais qu'il n'y avait aucun espoir pour elle, qu'elle ne nous apporterait que de l'affliction et qu'elle-même finirait mal. Mais aujourd'hui, quand elle nous a tous vus faire front commun pour le bien de la famille, elle ne s'est pas vraiment dressée contre nous. Au fond d'elle-même, elle sait ce qui est bien. Il faut employer le navire pour la prospérité de tous. Tu es l'aîné. Il est juste et normal que tu hérites de la source de richesse de la famille. En outre, tu as des enfants aux besoins desquels tu dois subvenir, ce que nous permettra le navire. Qui Althea a-t-elle à charge? Elle-même, c'est tout. Et je pense que nous pouvons veiller à ce qu'elle ait toujours de quoi manger, se vêtir et se loger. Mais si la situation était inversée et que le navire lui ait été confié, Elle aurait quitté le port à bord de la Vivacia sans un regard en arrière, en prenant sans aucun doute ce bon à rien de Brashen comme capitaine. Il s'étira légèrement sans déloger Kefria, il referma le bras sur elle et la serra contre lui. « Non, Kefria, je ne crois pas que tu aies de doute à avoir. Nous avons agi pour le mieux aujourd'hui. Nous pourvoirons aux besoins d'Althea et nous tirerons ta mère de ses embarras financiers. Serais-tu prête à affirmer sans hésitation qu'Althea s'occuperait de ta mère sans parler de nous deux et de nos enfants ? Je pense qu'à la fin, ton père lui-même s'est rendu compte qu'il était plus sage de te léguer le navire, si dur qu'il lui fut de froisser les sentiments de sa petite chérie. » En soupirant, Kefria se rapprocha de son mari. Ce qu'il disait était cohérent, et c'était d'ailleurs une des raisons qui l'avait poussé à l'épouser. Sa faculté de réfléchir avec soin et logique lui donnait une grande impression de sécurité. Lorsqu'elle s'était mariée, elle avait une certitude. Il n'était pas question qu'elle vive unie à un homme aussi impulsif et fantasque que son père, car elle en avait vu les effets sur sa mère, vieillie prématurément. D'autres femmes chefs de famille menaient des existences calmes et prospères, soignaient leur jardin de roses et s'occupaient de leurs petits-enfants, tandis que Ronica se levait chaque jour pour affronter la charge de décision et de travail qui revenait à un homme, et il ne s'agissait pas seulement de tenir les comptes et de discuter pied à pied des accords avec d'autres marchands. Bien souvent, elle se rendait à cheval dans les champs pour vérifier de ses propres yeux ce que lui rapportaient les contremaîtres. Depuis sa plus tendre enfance, Kefria détestait la saison de la récolte du maf. Quand elle était petite, tout ce qu'elle comprenait de cette période était que sa mère était déjà partie quand elle se réveillait et qu'elle ne la verrait qu'une heure avant d'aller au lit, voire pas du tout. Puis elle avait grandi et, pendant quelques années, sa mère l'avait traînée dans les champs, écrasée de soleil, au milieu des longues rangées de buissons piquants, vert foncé, couverts de haricots mûrissants. Elle avait dû apprendre comment les récolter, à quoi ressemblaient les insectes qui les attaquaient, à arracher sans perdre de temps les buissons malades et à les brûler, à bassiner laborieusement les autres d'une puissante décoction de moisissures de feuilles et de crottins de cheval. Kefria avait horreur de toutes ces tâches. Dès qu'elle eut l'âge de se préoccuper de ses cheveux et de son teint, elle se rebella, refusant de se laisser tourmenter davantage. Cela se passait, elle s'en souvenait, l'année où elle avait décidé de ne jamais épouser un homme qui partirait en mer en lui confiant de telles charges. Elle trouverait un mari prêt à assumer son rôle d'homme, un mari aimant qui lui assurait la sécurité et la tiendrait à l'écart de tout souci. « Et j'ai finalement épousé un marin, » dit-elle tout haut. Mais le ton affectueux dont elle prononça cette phrase en fit un compliment. Fit Kyle d'une voix ensommeillée qui venait du plus profond de sa poitrine. Kefria posa la main sur son torse et prit plaisir à voir dans la clarté lunaire le contraste de sa propre peau olivâtre avec celle blanche de son époux. Je regrette seulement que tu sois si souvent absent, fit-elle doucement. « Maintenant que papa est mort, te voici l'homme de la famille. Si tu n'es pas là... »«
Je sais, » répondit-il d'un ton pondéré. « J'y ai pensé non sans inquiétude. »«
Pourquoi crois-tu que j'insiste pour que Yéma voyage avec moi ?»«
Il est temps qu'il prenne sa place d'homme de la maison et assume sa part de responsabilité. »«
Mais, et sa prêtrise ?» objecta Kefria d'une petite voix.
Il lui était très difficile de s'opposer à son mari, mais jusque-là, sur ce point précis, il lui avait toujours laissé toute liberté, et elle avait du mal à concevoir qu'il ait pu changer d'avis.
« Tu sais que je n'ai jamais approuvé toutes ces bêtises, » déclara-t-il à mi-voix comme en réponse aux pensées de sa femme. « Donner notre premier fils à ça, c'est bon pour les gens riches de Jamelia. Pour eux, c'est une façon d'étaler leur fortune que de se passer d'un fils pour le travail sans que ça les gêne. Il n'en va pas de même pour nous, ma chérie. Mais je savais que tu y tenais. Je t'ai laissé faire et le petit est entré au monastère. Si ton père avait vécu encore quelques années, il aurait pu y rester. Mais ton père est mort et Seldon est trop jeune pour prendre la mer. Le fait est que Yéma est beaucoup plus nécessaire à notre famille qu'à un quelconque monastère de Jamelia. Ça pourvoit à nos besoins, comme tu le répètes souvent. Eh bien, considère notre situation de ce point de vue. Il y a 13 ans, il nous a pourvus d'un garçon dont nous avons aujourd'hui besoin.
Mais nous lui avons fait une promesse, fit-elle timidement. Elle sentait comme une souffrance en elle. La prêtrise de Yémin, son don à ça, revêtait pour elle une grande importance. Tous les garçons offerts à ça n'étaient pas acceptés. Certains se voyaient renvoyés chez leurs parents avec les remerciements du monastère et une lettre courtoise les informant que leur fils ne convenait pas à la prêtrise. Mais Yémin avait été choyé dès le début. Il avait rapidement obtenu sa bure marron de novice et s'était vu transférer du monastère annexe de Cale à celui de Quelpiton, sur la presqu'île de Moile. Les prêtres n'envoyaient pas souvent de compte-rendu, mais ceux que Kefria avait reçus étaient des plus favorables, et elle les conservait, fermés par leur ruban doré d'origine, dans un coin de son coffre à vêtements.
« C'est toi qui lui as fait cette promesse, pas moi ?» rétorqua Kyle. « Attends, laisse-moi me lever. »
Il se dégagea de l'étreinte de sa femme et quitta les draps. Son corps avait l'aspect de l'ivoire sculpté dans le clair de lune. Il tâtonna au pied du lit, trouva sa chemise de nuit et l'enfila.
« Où vas-tu ? »
demanda-t-elle à mi-voix. Elle savait que sa réaction lui avait déplu, mais jamais il ne l'avait laissée seule dans le lit pour dormir ailleurs. Il la connaissait par cœur. Et comme s'il avait perçu son inquiétude, il repoussa doucement les cheveux du visage de sa femme. « Je reviens. Je vais seulement jeter un coup d'œil dans la chambre d'Althea pour voir si elle est rentrée. » Il secoua la tête.
« Quelle idiote ! C'est incroyable. J'espère qu'elle n'est pas en train de se donner en spectacle à Terrilville. Quand elle est éméchée, elle est capable de raconter n'importe quoi. Or, nous n'avons surtout pas besoin d'un scandale en ce moment. La famille doit se montrer stable et unie tant que nous n'avons pas réglé nos problèmes financiers. Si Althea se met à parler à tort et à travers, nos créanciers risquent de s'affoler et de vouloir récupérer ce qu'ils peuvent chez nous tant qu'il en est encore temps. Nous avons eu notre comptant de soucis et de chagrins pour ce soir. Essaie de dormir. Je reviens dans un instant, quoi qu'il arrive. »
Un long moment, Brachen craignit qu'Althea refuse de se laisser escorter. Elle tituba légèrement tout en le lorgnant d'un œil trouble, et il lui rendit son regard sans ciller.
Par ça, dans quel état s'était-elle mise? Ses cheveux défaits lui tombaient sur le visage et les épaules, et sur sa figure barbouillée de poussière, les larmes avaient laissé de nombreux sillons. Seule sa robe la désignait comme une dame de qualité, bien que le tissu chiffonné donnât l'impression de provenir d'un tas de rebuts. Brachen se dit amèrement qu'elle avait plus l'air d'une catin à la recherche d'une culbute dans le foin que de l'orgueilleuse fille d'une famille de marchands de Terrilville. Si elle tentait de rentrer seule chez elle, tout pouvait lui arriver dans la frénésie du marché de nuit. Mais elle finit par pousser un grand soupir.
« D'accord, » dit-elle. Et avec un nouveau soupir, elle prit le bras que lui offrait Brachen. Elle s'appuya lourdement sur lui, et il se réjouit de s'être délesté de son sac de marin plus tôt dans la journée. Le tavernier qui le lui gardait était une vieille connaissance, et Brachen s'était séparé de plusieurs piécettes pour s'assurer que ses affaires resteraient en sécurité. Il préférait ne pas songer à l'argent qu'il avait dépensé en plus à suivre Althea de taverne en taverne. Davantage qu'il ne l'avait prévu, mais toutefois pas autant que lors d'une bordée nocturne en ville. Il n'était même pas vraiment ivre. C'était la sortie la plus sinistre qu'il eût jamais connue dans son port d'attache. Enfin, c'était presque fini. Il n'avait plus qu'à reconduire la jeune fille chez elle, et il aurait ensuite quartier libre pendant les quelques heures qui le séparaient de l'aube. Il parcourut la rue des Yeux. Elle était faiblement éclairée par quelques torches largement espacées et presque désertes. Ceux qui étaient encore en état de boire se trouvaient dans les tavernes et les autres devaient ronfler ici ou là. Néanmoins, des pandas rôdaient sûrement dans les environs, dans l'espoir de rafler les dernières pièces d'un matelot. Mieux vaudrait faire preuve de prudence, surtout avec Althea en charge.
« Par ici, » dit-il, et il voulut emmener la jeune fille d'un pas vif, mais elle trébucha presque aussitôt. « N'êtes-vous ivre à ce point ?»
lui demanda-t-il avec agacement avant de pouvoir retenir sa langue.
« Oui, »
répondit-elle avec un petit rot. Puis elle se baissa si brusquement qu'il crut qu'elle allait s'écrouler sur les planches du trottoir. Mais non, À un geste brusque, elle ôta l'une après l'autre ses chaussures enrubannées à haut talon.
Hey, « Eh, ces saletés n'arrangent rien !»
Elle se redressa et les jeta dans la rue obscure, après quoi elle se retourna vers Brashen et lui reprit le bras.
« Allons-y maintenant !»
Pieds nus, elle progressait beaucoup plus aisément, il dut le reconnaître. Il eut un sourire amusé. Il avait eu beau passer des années à se débrouiller seul, il demeurait en lui un petit côté collémonté typique des Trelles, car il avait eu une réaction horrifiée devant l'indécence d'une fille de marchand allant nu-pied par la ville. Bah, étant donné son état général, ce ne serait sans doute pas la première chose qu'on remarquerait chez elle, et de toute manière, il ne comptait pas lui faire traverser le marché. Il emprunterait des rues moins fréquentées, en espérant ne rencontrer personne qui pût les reconnaître dans la pénombre. Il devait bien cela à la mémoire d'Efran Vestrit. Mais comme il parvenait à un carrefour, elle le tira par le bras pour le diriger vers les rues illuminées du marché nocturne.
« J'ai faim !»
déclara-t-elle d'un ton à la fois surpris et agacé, comme si c'était la faute de Brashen.
« Je suis fauché, désolé !»
répondit-il en mentant sans vergogne, et il s'efforça de l'entraîner dans la direction inverse.
Elle le dévisagea d'un air soupçonneux.
« Vous avez si vite bu votre paix ? Par le cul de ça ! Je savais qu'à terre vous étiez un ivrogne, mais je ne pensais pas que vous y laissiez votre argent à cette allure.
« Je l'ai laissé aux putes, » dit-il d'un ton irritable, en inventant au fur et à mesure. Elle le toisa la lumière dansante d'une torche.
« Oui, ça vous ressemblerait, »
fit-elle en se parlant à elle-même. Elle secoua la tête.
« Vous êtes capable de tout, hein, Brashen Trelle ?»«
Pratiquement, » répondit-il, décidé à mettre fin à la conversation. Encore une fois, il la tira par le bras, mais elle résista.
« Je connais plein d'endroits où me fera crédit. Venez, je paierai pour vous aussi. »
Elle était passée de la critique à l'effusion en un clin d'œil.
Brashen résolut d'aller droit au but.
« Althea, vous êtes ivre et dans un état épouvantable. Vous ne pouvez pas vous montrer ainsi en public. Allons, je vous raccompagne chez vous. »
Elle perdit toute velléité de résistance et le suivit par les rues sombres.
Il se trouvait dans un quartier commerçant aux boutiques louches ou trop pauvres pour payer le loyer élevé d'un emplacement au marché de nuit. Une lumière diffuse tombait des lanternes de celles qui étaient encore ouvertes. Salons de tatouage, échoppes d'encens et de médicaments, maisons dédiées à la satisfaction d'appétits charnels hors du commun. Brashen se réjouit de constater que les clients étaient rares. Mais alors qu'il croyait ses épreuves terminées pour la nuit, il entendit Althea pousser un long soupir tremblant. Et il comprit qu'elle pleurait, presque sans bruit.
« Qu'y a-t-il » demanda-t-il d'un ton las. « Maintenant que mon père est mort, plus personne ne sera jamais fier de moi. »
Elle secoua la tête, s'essuya les yeux sur sa manche et reprit d'une voix étranglée.
« Avec lui, c'était ce dont j'étais capable qui comptait. Avec eux, c'est mon apparence ou ce qu'on pense de moi. »
« Vous avez trop bu, » dit-il doucement.
Par ces mots, il cherchait à la réconforter, à lui faire comprendre que ses pensées ne lui pesaient qu'à cause de l'alcool qui abattait ses défenses. Mais ils sonnèrent comme une réprimande. Elle se contenta de courber la tête en signe d'acquiescement et le suivit docilement. Brashen jugea préférable de ne pas insister. Manifestement, il n'avait aucune chance de lui remonter le moral, et en toute franchise, il n'était pas sûr d'en avoir envie ni de vouloir en prendre la responsabilité. Althea avait été condamnée par sa famille, certes, mais pouvait-elle s'adresser à lui en oubliant que lui-même avait été complètement rejeté par la sienne ? Quelques semaines plus tôt, elle le lui avait lancé à la figure. Elle n'avait pas le droit d'espérer la moindre compassion maintenant que la situation s'était inversée. Ils marchèrent quelque temps en silence. Puis, Althea prit la parole.
« Brashen, » dit-elle à mi-voix, mais d'un ton grave, « je vais récupérer mon navire. »
Il émit un bruit de gorge qui ne l'engageait à rien. Inutile de lui répondre qu'à son avis, elle se racontait des histoires.
« M'avez-vous entendu ? »
demanda-t-elle.
« Oui, je vous ai entendu. Eh bien, n'avez-vous rien à déclarer ?»
Il éclata d'un rire bref et amer.
« Quand vous récupérez votre navire, j'espère bien retrouver ma place de second. »«
Top là ! » fit-elle pompeusement.
Brachen grogna. « Si j'avais su que c'était si facile, j'aurais exigé de devenir capitaine. »«
Non, non, c'est moi qui serai capitaine. »«
Mais vous pouvez avoir le poste de second. »«
Vivacia vous apprécie. »« Quand je serai capitaine, je ne prendrai à bord que des gens qui nous plaisent. »«
Merci, » fit Brachen gêné. Il n'aurait jamais cru qu'Althea l'appréciait. Savoir que la fille du capitaine l'aimait bien, finalement, le toucha curieusement.
« Quoi ? »
demanda-t-elle d'une voix pâteuse.
« Rien, rien du tout. »
Ils tournèrent dans la rue des marchands du désert des pluies. Là, les magasins étaient plus ornés et tous, sauf un ou deux, étaient fermés pour la nuit. Les produits exotiques et onéreux dont ils faisaient commerce s'adressaient aux riches, pas aux jeunes gens dissipés et insouciants qui formaient la principale clientèle du marché nocturne. Des volets protégeaient les hautes vitrines et des gardes loués, lourdement armés, faisaient les 100 pas devant, l'œil aux aguets. Plus d'un jeta un regard peu amène au couple qui suivait le trottoir en planche. Les articles derrière les volets détenaient un peu de la magie du désert des pluies. Et Brachen trouvait toujours à cette rue une atmosphère à la fois inquiétante et enjôleuse, qui lui faisait dresser les cheveux sur la nuque en même temps qu'elle lui nouait la gorge. Malgré la nuit qui dissimulait les produits mystérieux du sombre commerce du fleuve, l'aura de magie, glacée comme l'argent, envahissait l'air nocturne. Althea partageait-elle son impression? Il faillit le lui demander. Puis la question lui parut à la fois trop grave et trop légère pour l'exprimer tout haut. À mesure que le silence grandissait entre eux, Brachen ressentait de plus en plus la main d'Althea comme un signe d'intimité qui le mettait mal à l'aise. Et quand il reprit la parole, ce fut davantage pour dissiper cette impression que pour toute autre raison.
« Eh bien, elle a rapidement trouvé sa place ?»
fit-il tout haut alors qu'il passait devant la boutique d'ambre, et de la tête il indiqua une devanture à l'angle de la rue du désert des pluies où Ambre en personne était installée derrière un jeu de panneaux de verre de Yika qui valait une fortune. Limpides comme de l'eau, ils avaient des châssis délicatement sculptés et dorés qui donnaient à la femme l'air d'une œuvre d'art encadrée. Le fauteuil dans lequel elle était assise était en osier blanc. Elle portait une longue robe brune, simplement retenue aux épaules, qui l'enveloppait plus qu'elle ne mettait en valeur ses formes minces. Les vitrines de sa boutique n'étaient pas fermées par des volets ni barrées, et nul garde ne veillait alentour. Peut-être Ambre comptait-elle sur l'étrangeté de sa propre personnalité pour décourager les voleurs. La mèche allumée dans l'huile d'une coupe posée à terre près d'elle émettait une douce lumière jaune. Le brun profond de sa robe drapée rehaussait l'or de son teint, de ses cheveux et de ses yeux. Ses orteils passaient sous son long vêtement et elle observait la rue avec des yeux impavides de chat. Althea s'arrêta pour lui rendre son regard. Elle vacillait légèrement et, sans réfléchir, Brachen lui passa un bras sur les épaules pour la soutenir.
« Que vend-elle ? »
demanda tout haut Althea et Brachen fit la grimace, certain que la femme l'avait entendu malgré la vitrine. Mais l'expression d'Ambre ne changea pas et ses yeux impassibles restèrent posés sur la jeune fille dépenaillée. Althea ferma les paupières, puis les rouvrit toutes grandes, comme si entre-temps la scène avait pu se modifier.
« On la dirait sculptée en bois, en érable doré. »
La femme l'entendit manifestement, car Brachen vit un petit sourire apparaître sur ses lèvres. Mais quand Althea ajouta d'un ton plaintif,
« Elle me rappelle mon navire. »
La belle Vivacia, avec toutes les couleurs de la vie dans le grain soyeux du bois sorcier. Le visage d'Ambre exprima soudain un profond dégoût. Sans même chercher à savoir pourquoi ce mépris patricien l'inquiétait tant, Brachen saisit Althea par le coude et l'entraîna fermement dans la rue obscure. Au carrefour suivant, il lui permit de ralentir le pas. Elle s'était mise à claudiquer. Et il se rappela le bois mal dégrossi des trottoirs. Althea n'en dit mot, mais demanda une nouvelle fois « Que vend-elle ? Elle ne fait pas partie des marchands de Terrilville qui pratiquent le commerce sur le fleuve du désert des pluies. Seules celles qui possèdent une vive nef le peuvent. Alors, qui est-elle et pourquoi tient-elle boutique dans la rue du désert des pluies ?» Rachel haussa les épaules. Elle est arrivée il y a 2 ans à peu près. Elle avait une petite échoppe du côté de départ et de la place Bodkin. Elle fabriquait des perles en bois et les vendait. Rien d'autre, uniquement de très jolies perles en bois. Beaucoup de gens en achetaient pour faire des colliers à leurs enfants. Puis l'année dernière, elle a déménagé pour un meilleur emplacement et s'est mise à vendre, disons, des bijoux, mais ils sont tous en bois.
« Des bijoux en bois ?» s'esclaffa Althea. Elle semblait retrouver sa personnalité inhabituelle. Marcher à pied avait dû commencer à la dégriser. Tant mieux. Peut-être aurait-elle le bon sens d'arranger son apparence avant d'entrer pieds nus chez son père.
J'ai eu la même réaction avant de les voir. Je ne pensais pas qu'un artisan pouvait tirer tant du bois. Elle se sert des petits nœuds pour fabriquer des visages, des animaux et des fleurs exotiques, et parfois elle ajoute des incrustations. Mais sa réussite tient autant au bois qu'elle choisit qu'à sa technique. Elle doit avoir un œil extraordinaire pour voir tout ce qui se cache dans un bout de bois.
Ah ! Travaille-t-elle aussi les bois sorciers ?
Demanda Althea sans détour. S'exclama Brachen avec mépris. Elle est peut-être nouvelle chez nous, mais elle connaît assez bien nos coutumes pour savoir qu'on ne le tolérerait pas. Non, elle n'emploie que des essences ordinaires, cerisiers, chênes et je ne sais trop quoi encore, de toutes les couleurs et de tous les grains.
Pourtant, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le bois sorcier à Terrilleville sans le déclarer,
observa Althea d'un air sombre. Elle se gratta le ventre.
C'est un sale petit trafic. Mais si on en veut un morceau sculpté et qu'on a de quoi payer, on peut l'obtenir. »
Ce ton sinistre mit Brachen mal à l'aise, et il s'efforça d'alléger la conversation.
« Bah, n'est-ce pas ce qu'on dit de Terrilleville, que si on imagine quelque chose, on peut le trouver ici ?»
Elle eut un sourire torve. « Et vous en avez entendu le pendant, non ? Que personne ne peut vraiment imaginer le bonheur et que c'est pourquoi le bonheur n'est pas à vendre ici. »
Le ton brusquement morne qu'elle avait pris laissa Brachen à court de mots. Le silence qui s'ensuivit paraissait à l'unisson de l'air fraîchissant de la nuit d'été. Comme il quittait les rues des marchands et des boutiquiers pour s'engager dans les voies sinueuses des quartiers résidentiels de Terrilleville, l'obscurité se fit plus profonde. Les lanternes étaient plus espacées et plus en retrait de la chaussée. Des chiens aboyaient d'un air menaçant derrière des clôtures ou des haies. Les rues étaient plus cahoteuses, les trottoirs gravillonnés, et quand Brachen pensait aux pieds nus d'Althea, il faisait une grimace de compassion. Cependant, elle ne se plaignait pas. Dans le silence et l'ombre de la nuit, le chagrin qu'il éprouvait pour la disparition de son capitaine trouva la place de grandir, et plus d'une fois, il battit des paupières pour chasser une larme. Mort. Le capitaine était mort. Et avec lui l'occasion de Brachen de refaire sa vie. Il aurait dû mieux profiter de tout ce que l'ancien marchand lui proposait de son vivant. Il n'aurait jamais dû croire que la main qu'il lui tendait demeurerait toujours disponible. Eh bien, maintenant, il ne lui restait plus qu'à refaire sa vie tout seul. Il jeta un coup d'œil à la jeune fille toujours accrochée à son bras. Elle aussi devrait se débrouiller seule. Ou bien accepter le destin que sa famille lui préparait. On lui trouverait sûrement le plus jeune fils d'une famille de marchands prêt à l'épouser malgré sa réputation, peut-être même son propre petit frère, à lui, Brachen. Serwin serait sans doute incapable de tenir tête à Althea, mais la fortune des Trell se marierait bien avec celle des Vestrit. Brachen se demanda comment le caractère aventureux d'Althea s'accommoderait du traditionnalisme étroit de Serwin. Et il eut un sourire sinistre. Qui serait le plus à plaindre? Il s'était déjà rendu chez les Vestrit, mais seulement 2 jours, pour faire part au capitaine Vestrit de certaines affaires concernant le navire. De nuit, le chemin paraissait beaucoup plus long. Le brouhaha lointain du marché nocturne finit par s'éteindre derrière eux. Ils longèrent des haies dont les fleurs de nuit parfumaient l'air, et une sérénité singulière envahit Brachen. La journée écoulée avait vu la fin de bien des choses. Une fois encore, il se retrouvait à la dérive sans pouvoir compter sur nul autre que lui-même. Le lendemain, pas d'obligation, pas d'horaire, pas d'équipage à diriger, pas de fret à décharger. La situation était-elle si terrible finalement ?
La résidence des Vestrit était située très en retrait de la chaussée. Les jardins et les pelouses abritaient des insectes et des grenouilles qui chantaient dans la nuit estivale. Seul son en dehors du crissement des pas de Brachen qui remontait l'allée gravillonnée. Ce fut une fois à la porte d'entrée blanche, cette porte familière devant laquelle il avait parfois attendu qu'on l'introduise pour parler des affaires du navire, que le chagrin lui noua de nouveau la gorge. « Plus jamais, » se dit-il. C'était sans doute la dernière fois qu'il se tenait devant cette huit. Au bout d'un moment, il remarqua qu'Althea n'avait pas lâché son bras. Là, loin des ruelles étroites et des boutiques, le clair de lune éclairait nettement la jeune fille. Ses cheveux, ou du moins une partie, s'étaient échappés de la résille en dentelle qui les maintenait serrés. Elle ôta soudain sa main du bras de Brachen, se redressa et poussa un grand soupir. « Merci de m'avoir accompagnée, » dit-elle d'un ton aussi égal et formaliste que s'il l'avait escortée dans une voiture après une fête des marchands. « Je vous en prie, » répondit-il à mi-voix. Et comme si ces paroles avaient réveillé en lui le garçon aristocratique que sa mère envoyait à l'école, il s'inclina profondément devant elle. Il faillit lui baiser la main. Mais à la vue de ses propres souliers éculés et de son pantalon de coton au bas effiloché, il se rappela qui il était. « Tout ira bien, » fit-il, et c'était autant un ordre qu'une question. « Je pense, » répondit-elle d'un ton vague. Elle se détourna et posa la main sur le loqueteau, mais à cet instant, la porte s'ouvrit violemment devant elle. Kyle apparut dans l'encadrement. Il était en chemise de nuit, pieds nus, et ses cheveux pâles ébouriffés. Mais sa fureur était telle que son aspect n'avait rien de ridicule. « Que se passe-t-il ici ? » fit-il d'une voix tendue. Il avait parlé d'un ton bas, comme pour préserver un secret, mais l'intensité de ses émotions en faisait un hurlement. Instinctivement, Brachen se raidit devant l'homme sous lequel il avait servi. Quant à Althea, elle commença par reculer d'effroi, puis se reprit vivement. « Ça ne vous regarde pas !» déclara-t-elle, et elle tenta de le contourner pour entrer. Il la saisit brutalement par le bras et l'obligea à se tourner vers lui. « Nom de ça !» s'écria-t-elle sans faire le moindre effort pour parler bas. « Enlevez vos pattes de moi !» Sans l'écouter, Kyle lui infligea une secousse qui la fit danser comme un poids au bout d'un fouet. « Cette famille me regarde !» gronda-t-il. « Cette famille et sa renommée me regardent comme elles devraient vous concerner. Voyez-vous donc, pieds nus avec l'air et l'haleine d'une catin ivre, accompagné d'un ruffian qui vous suit à la trace comme une putain de bas étage. Est-ce pour ça que vous l'avez amené ici, à la demeure de votre famille? Comment osez-vous? Le soir même de la mort de votre père, comment avez-vous pu nous humilier tous ainsi ?» À l'écoute de ces accusations, Althea avait découvert les dents comme un renard. Elle griffa la main qui la tenait fermement. « Je n'ai rien fait !» s'exclama-t-elle violemment, et sa voix exprima trop clairement son abus de boisson. « Je n'ai rien fait d'humiliant! C'est vous qui devriez avoir honte, espèce d'escroc! Vous m'avez volé mon navire! Vous m'avez volé mon navire !» Brachen restait pétrifié d'horreur. Il n'avait surtout pas envie de se trouver mêlé à cette affaire, mais quoi qu'il fît, l'un des protagonistes le prendrait mal. Le pire, cependant, était de rester planté sans réagir. Allons, autant se faire condamner pour un bélier que pour un agneau. « Capitaine Kyle, laissez-la. Elle n'a rien fait de pire que s'enivrer un peu. Étant donné ce qui s'est passé pendant la journée, ça n'a rien d'étonnant. Lâchez-la, bon sang, vous lui faites mal !» Il n'avait pas levé la main, n'avait nullement donné l'impression qu'il avait l'intention d'attaquer Kyle, mais celui-ci rejeta brusquement Althea de côté et s'avança d'un air menaçant vers le marin. « Vous espériez peut-être mieux, mais pas nous !» Derrière Kyle, dans le couloir obscur, Brachen aperçut une lampe qu'on allumait et entendit une voix féminine qui posait une question. Kyle voulut attraper Brachen par le devant de sa chemise, mais son vis-à-vis recula. Derrière lui, Althea avait repris son équilibre. Elle pleurait, inconsolable comme un enfant perdu. Elle s'accrocha à l'encadrement de la porte, son visage courbé, caché par ses cheveux, et elle continua de sangloter. Kyle ne cessait de tempêter. « Oui,
Vous espériez qu'elle s'enivrerait, espèce de sale corneau, et vous la suiviez dans l'espoir d'autre chose. Je vous ai vu l'observer sur le navire, et je sais à quoi vous pensiez. Vous n'avez pas pu attendre que le corps de son père repose au fond pour lui courir après, hein ?
Kyle ne cessait d'avancer vers Brashen, qui cédait peu à peu du terrain. Physiquement, Kyle, pourtant plus grand que lui, ne l'effrayait pas. Mais le nouveau capitaine ne jouissait pas que de ses poings pour se battre. Il avait tout l'avantage d'une lignée de premiers marchands pour l'appuyer. S'il tuait Brashen, on ne mettrait guère en doute son récit de l'événement. Brashen se convainquit donc que ce n'était pas par lâcheté, mais par simple bon sens qu'il reculait, les mains levées en signe d'apaisement, et déclarait « Il ne s'agissait pas du tout de ça. Je raccompagnais simplement Althea chez elle pour lui éviter des ennuis, c'est tout. » Kyle lui envoya un coup de poing que Brashen esquiva sans difficulté, mais ce simple mouvement lui permit de jauger son adversaire. Le capitaine Havre était lent, et il se déséquilibrait excessivement. Il avait beau être plus grand, posséder une meilleure allonge et peut-être plus de force que Brashen, celui-ci savait pouvoir le battre et sans mal. À la seconde où il se demandait s'il allait devoir lui rendre ses coups, une voix de femme s'éleva à la porte.
« Kyle ! Brashen !»
Malgré son âge et sa peine, ou peut-être à cause des deux, on eût dit que Ronica Vestrit réprimandait deux enfants indisciplinés.
« Arrêtez ! Arrêtez tout de suite !»
La vieille femme, les cheveux noués pour la nuit, s'accrochait à l'encadrement.
« Qu'y a-t-il ? J'exige de savoir ce qui se passe. »«
Ce fils de porc !»
commença Kyle. Mais la voix égale et basse d'Althea rauque à force de pleurer, en dehors de cela la jeune fille se maîtrisait parfaitement, coupa court à son indignation.
« J'étais folle de douleur. J'ai trop bu, puis j'ai rencontré Brashen Trell dans une taverne. » Et il a insisté pour me raccompagner à la maison. Et c'est tout ce qui s'est produit ou allait se produire quand Kyle est apparu comme une furie en nous traitant de tous les noms. »
Althea releva soudain la tête et jeta un regard noir à Kyle, le mettant au défi de la contredire.
« C'est exact ?»
fit Brashen à l'instant où Kyle s'exclamait d'un ton plaintif.
« Mais regardez-la, regardez-la !»
Brashen ne put savoir qui Ronica Vestrit croyait. Car la femme d'acier que l'on connaissait refit surface quand elle déclara simplement
« Kyle et Althea, allez vous coucher. Brashen, rentrez chez vous. Je suis trop fatigué et trop en peine pour m'occuper de cette affaire dès maintenant. »
Comme Kyle s'apprêtait à protester, elle ajouta pour l'apaiser
« Demain, ce sera bien assez tôt, Kyle.
Si nous réveillons les domestiques, ils répandront ce scandale dans tout le marché. » Il ne m'étonnerait d'ailleurs pas que l'un d'eux écoute déjà derrière la porte.
Cessons donc cette querelle immédiatement. Que les affaires de famille restent entre nos murs, c'est ce que disait toujours Ephron.
Elle se tourna vers Brashen.
« Bonne nuit, jeune homme, »
fit-elle en guise de congédiement. Et il ne fut que trop heureux de s'en aller. Sans un au revoir ni un bonsoir, il s'éloigna d'un pas vif dans la nuit. Quand il entendit la lourde porte se refermer derrière lui, il eut l'impression d'avoir clos un chapitre de son existence. À grandes enjambées, il se dirigea vers le bassin du port et Terrilville proprement dite. Tout en descendant, il perçut les premiers pépiments prudents des oiseaux de l'aube. Il leva les yeux vers l'est, vers un horizon qui commençait à se teinter de lumière, et il se sentit soudain très las. Il songea à l'étroite couchette qui l'attendait sur Vivacia, puis se rappela soudain la journée écoulée. Plus aucune couchette ne l'attendait nulle part. Il envisagea de prendre une chambre dans une auberge avec un lit moelleux, une courte pointe propre et de l'eau chaude pour la toilette du matin, puis il eut un sourire qui était en même temps un rictus. Voilà qui aplatirait rapidement sa bourse. À la fin de cette nouvelle journée, quand il aurait l'occasion de profiter d'une nuit complète, il se paierait peut-être une chambre. Mais ce matin, il ne dormirait que quelques heures avant que la lumière, le bruit et la chaleur du jour le rattrapent. Pas question de dépenser de l'argent pour un lit dont il jouirait à peine. Mu par une longue habitude, il était revenu au port. Il secoua la tête et tourna ses pas vers la rue des Manieurs, sortit de la ville et descendit vers les plages rocheuses sur lesquels les pêcheurs les plus pauvres tiraient leurs embarcations. Là, Parangon l'hébergerait pour la journée, en retour de quoi il jouirait de la compagnie de Brachen. Il serait toujours temps de récupérer son sac de marin et de chercher du travail et un logement dans l'après-midi. Pour l'instant, il allait se reposer quelques heures, loin des Vestrites et des Havres.
Molkin s'arrêta sur place. Ses mâchoires s'ouvrirent et se refermèrent pour goûter la nouvelle atmosphère. Le nœud fatigué s'enfonça dans la vase molle du fond, soulagé de ce répit dans un trajet obstiné. Avec une sorte d'affection, Shriver regardait leur chef apprécier la saveur saline de ce plein. Sa collerette se déploya autour de son cou dans une attitude mi-provocatrice, mi-interrogatrice. Quelques serpents grondèrent à cette vue en s'agitant, l'air mal à l'aise.
« Nul ne nous défie ici, » fit Sessuréa. « Il s'amuse avec des bulles. »
« Non, » répondit Shriver avec une calme assurance. « Ce sont ses souvenirs. Il s'efforce de les retrouver. C'est ce qu'il m'a dit. Ils brillent devant son esprit comme un banc de capelans et obscurcissent sa vue par leur multitude. Comme tout pêcheur avisé, il doit ouvrir grand la gueule et plonger dans la masse en espérant attraper une proie en refermant la mâchoire.
« Il n'attrapera sans doute que de la boue, » dit Sessuréa à mi-voix.
Shriver hérissa sa collerette à son tour, et Sessuréa se détourna vivement d'elle pour se frotter la queue du nez comme s'il se nettoyait. Quant à Shriver, elle s'étira de tout son long en faisant des grâces pour bien montrer qu'elle ne le craignait pas.
« Les tubicoles, » observa-t-elle comme à elle-même, « se contentent d'une vision du monde qui ne change jamais. »
Les autres, elle le savait, commençait à remettre en question les qualités de chef de Molkin, mais pas elle. Certes, ces derniers temps, ses idées paraissaient plus confuses que d'habitude. Il trompetait étrangement dans ses rêves pendant les brefs repos qu'il accordait à sa troupe, et il se parlait à lui-même plus souvent qu'à ceux qui l'accompagnaient. Mais ce qui les effrayait le plus étaient les signes qui convainquaient Shriver qu'il les menait sur le bon chemin. Plus il le suivait vers le nord, plus Shriver avait la certitude qu'il était de ceux qui détiennent les souvenirs d'autrefois. Justement, elle le regardait. Ses grands yeux couleur cuivre, protégés par leurs paupières laiteuses, il faisait des boucles sur lui-même jusqu'à ce que ses faux yeux d'or brillent. Certains des autres serpents observaient la scène avec mépris, comme s'ils croyaient que Molkin stimulait ses sens par simple plaisir. Shriver, elle, le regardait avec envie. Si le reste d'une n'avait pas prêté tant d'attention à la danse de leur chef, peut-être aurait-elle osé se joindre à lui, tresser son corps au sien et tenter de partager les souvenirs qu'il recherchait. Mais elle aspira discrètement de l'eau saline dans sa gueule à demi ouverte et la laissa s'échapper lentement par ses branchies, en en savourant au passage le goût étrange. L'eau était imprégnée de sels inconnus à l'intensité presque piquante. Elle goûta aussi les sels du corps de Molkin, qui continuait à se frotter contre lui-même. Elle ouvrit les paupières qui lui bouchaient la vue, et l'espace d'un instant, elle rêva. Le manque était le plein, et elle s'y élevait librement. Avant de pouvoir se maîtriser, elle rejeta la tête en arrière et trompeta triomphalement
« Le chemin est dégagé !»
Puis elle se rendit compte de son geste. Les autres la regardaient maintenant avec la même attention qu'ils observaient Molkin. Décontenancée, elle rabattit sa collerette sur son cou. Molkin plongea à pic vers elle et soudain l'enveloppa fermement dans toute la longueur de son corps. Sa collerette se souleva en émettant des toxines qui l'endormirent et l'intoxiquèrent à la fois. Il la tenait avec une formidable puissance, barbouillait ses écailles de musc, assaillait ses sens des lambeaux de souvenirs qu'il avait retrouvés. Puis tout à coup, il la laissa aller et s'éloigna d'un coup de queue. Lentement, maladroitement, elle se posa au fond en essayant de reprendre son souffle.
« Elle partage !»
annonça Malkin à son groupe.
« Elle voit, et elle est ointe de mes souvenirs, de nos souvenirs. Viens, Shriver, relève-toi et suis-moi. Le temps du rassemblement est proche. Suis-moi jusqu'à la Renaissance. »